Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Zoom de l'info sur Radio Immo, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, mon invité est Anne-Lise Lemery, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes architecte et fondatrice de Cycle de Ville. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Cycle de Ville ? On sait que vous êtes, enfin, je sais que vous êtes très engagée sur plein de choses, hein, sur le réchauffement climatique, sur tout ce qui est biosourcé, l'économie circulaire. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez nous présenter Cycle de Ville pour commencer ?
Oui, alors, donc Cycle de Ville est d'abord une agence d'architecture, donc ouais. Qui est dédiée à la rénovation de l'habitat. En particulier, on est quand même très centré sur ces sujets de la manière d'habiter la terre. Et par extension, on a aussi agrégé un bureau d'études environnementales. Donc, on est capable d'accompagner des acteurs publics et privés autour de stratégies environnementales du bâtiment, quel qu'il soit. Et depuis une dizaine d'années maintenant, on est plutôt référencé sur le volet du réemploi des matériaux de construction ou de l'économie circulaire, ce qu'on appelle l'économie circulaire, qui globalement, enfin, englobe l'ensemble des stratégies qui permettent de limiter la production de déchets.
Donc, ça veut dire que sur un chantier, vous récupérez les anciens matériaux qui sont sur le chantier, par exemple.
Oui, c'est ça. Alors, c'est au-delà du simple cadre du chantier, c'est toute une anticipation des démarches qui vont permettre à la fois de capter des gisements qui sont issus de la déconstruction d'un premier bâtiment, de les intégrer au sein du nouveau projet, ce qui n'est pas sans poser quelques questions en termes notamment assurantiels ou techniques, et ensuite de faire marcher je dirais de nouvelles filières, de nouvelles manières de faire travailler les gens, parfois pour s'appuyer sur des équipes en insertion, pour permettre à des personnes éloignées de l'emploi d'apprendre des nouveaux métiers. Donc c'est un champ assez passionnant, mais voilà, qui est en plein développement en ce moment dans l'immobilier.
Alors là, vous avez parlé du public. Qui sont vos clients ? Est-ce que c'est des professionnels ? Est-ce que ça peut être des particuliers ?
On a vraiment une grande diversité de clients. On s'adresse dans des missions de conseil ou d'expertise, on est plutôt en lien avec des collectivités territoriales, comme ça peut être le cas par exemple de pleine commune où on a vraiment des missions assez méta, enfin des accords cadres sur des démarches territoriales autour de l'intégration de l'économie circulaire dans l'immobilier et le cadre bâti. Mais ça peut être aussi en effet des particuliers ou des entreprises qui désirent rénover. Globalement, on aborde assez souvent un sujet de la rénovation du patrimoine bâti en milieu agricole. Donc on a pas mal de fermes qu'on essaye de rénover avec des matériaux biosourcés, notamment issus de la production agricole, tels que la paille, le chanvre, le lin ou la terre. Voilà, on essaye de autant que possible de mettre en œuvre des matériaux alternatifs et des manières de construire qui ont été un peu perdues avec le temps, mais qui permettent de savoir mettre en œuvre ces types de matériaux.
Et justement, alors, quels sont les avantages de ces matériaux, le biosourcé par exemple ? Donc c'est issu du végétal, hein, c'est ça le biosourcé ?
Alors oui, c'est ça, les matériaux biosourcés sont issus du monde animal ou végétal, donc principalement ce sont plutôt de la fibre végétale, comme peut l'être la paille, la laine de bois, le lin, enfin voilà, tout ce qui est d'origine animale ou végétale, mais ça peut être aussi la laine de mouton, enfin voilà, de manière un petit peu moindre aussi dans le cadre bâti. Ce sont pas forcément des matériaux industriels, mais ça peut l'être. On a aujourd'hui un certain nombre de matériaux qui sont sous avis technique, qui sont issus de filières, je dirais, post-industrielles, puisqu'on est, on est quand même dans des matériaux qui ne sont pas des dérivés d'hydrocarbures, et donc leur très grand avantage, c'est que, comme son nom l'indique, ben voilà, on n'a pas utilisé de pétrole pour les fabriquer, et donc c'est naturellement, ça s'inscrit dans une continuité, dans une logique de diminution de l'empreinte carbone. On se doit d'incorporer de plus en plus ou autant que possible de matériaux d'origine biosourcée quand on met en œuvre des matériaux.
Est-ce qu'il y a des inconvénients ? Ça prend pas plus facilement feu, ou vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on a un recul nécessaire sur ces matériaux ? Est-ce qu'ils vieillissent bien ?
Oui, alors c'est aujourd'hui, on va dire, un tropisme, un centre d'études très fort au sein des principaux organismes de normalisation et de test. Le CSTB ou d'autres organismes, il y a des groupes de travail qui se mènent autour justement de la réaction au feu, de la manière de mettre en œuvre ces matériaux. Ils ont une fragilité assez relative qui est d'être sensible à l'eau pour la plupart des isolants biosourcés, bien que le liège, par exemple, ne soit pas sensible à l'eau.
Donc risque d'infiltration, c'est ça?
Donc risque de, je dirais, de diminution des capacités d'isolation à partir du moment où vous avez un isolant qui est humide. Mais il faut quand même savoir que c'est un champ qui est tout à fait encadré et très, très contrôlé, qui est vraiment dans le viseur de tous les organismes, que ce soit les pompiers, tout ce qui est normes au feu. Donc on lâche pas dans la nature des matériaux qui sont entre guillemets dangereux. Il y a un cadre très, très structuré autour de ces modes de mise en œuvre et qui est d'autant plus exigeant pour les artisans qui vont les mettre en œuvre. Et par ailleurs, on a aussi un certain nombre d'idées reçues qu'on s'efforce de déconstruire avec les professionnels du secteur, comme notamment l'idée que la paille prend feu.
Alors, c'est vrai.
Effectivement, ce qui est vrai quand il est mis en vrac avec de l'air, donc c'est voilà, la loi de la combustion, je ne vais pas vous la rapprendre, mais alors qu'en contraire, de la paille bien compactée et telle qu'elle devrait être mise en œuvre pour assurer sa fonction d'isolation optimale, en réalité, elle a des très bons résultats au feu. C'est d'ailleurs un très bon isolant. Voilà, la paille compressée au taux de compression nécessaire, elle résiste très bien au feu. Donc les quelques accidents qu'on a pu voir en région Île-de-France, malheureusement, sont souvent liés à une temporalité de chantier où on n'avait pas forcément bien, par exemple, fermé les caissons de toiture. Voilà, il y a eu, ça demande en fait une vigilance à des endroits où on n'avait pas l'habitude de porter une vigilance particulière.
Et est-ce que la vigilance peut être là sur chaque chantier? On sait que le bâtiment souffre un petit peu depuis un an et demi maintenant, que le bâtiment manque de main d'œuvre. Est-ce que justement ça vient pas pénaliser ce genre de chantier avec des matériaux biosourcés?
Alors non, je pense en réalité que c'est plus une méconnaissance des spécificités du matériau, ou peut-être un manque de vigilance à un point spécifique d'un moment du chantier.
Donc un manque de formation peut-être.
Oui, ou un retour d'expérience malheureux. Enfin, tous les accidents entre guillemets qui se sont produits. D'ailleurs, on ne retient que les accidents. Vous remarquerez, on ne retient pas les accidents quand on a un immeuble en structure métallique qui prend feu. C'est encore plus dramatique, je dirais, qu'un bâtiment peut-être en bois. Je pense qu'il faut aussi un peu mesurer le degré de danger. On n'expose pas les gens à un danger supérieur en mettant en œuvre des matériaux biosourcés, ça c'est absolument faux. Sinon, évidemment, ils ne seraient pas sous avis technique et on n'aurait pas l'autorisation de les mettre en œuvre. Donc voilà, les règles professionnelles ont évolué par rapport à la paille, par exemple. Mais c'est un combat pour surtout des filières qui n'ont pas beaucoup de moyens, contrairement à pas mal de filières qui sont plutôt des dérivés d'hydrocarbures, donc c'est un petit peu le combat de David contre Goliath. Mais je dirais, il y a aussi un tel engouement quand même de la plupart des professionnels qui se retrouvent aussi contraints par les normes de réduction des impacts environnementaux, que finalement de plus en plus de professionnels se tournent vers eux et ils sont dans l'obligation de savoir les manier. Et c'est d'ailleurs plutôt bien.
Ça coûte un peu plus cher en revanche, ces matériaux?
Alors, on a coutume de dire qu'il y a un impact économique de l'ordre de 10 à 15%. Évidemment, je vous parle de ça, c'est très différent d'un matériau à l'autre. Une structure en bois comparée à une structure en béton, on est bien au-delà et ça peut être... le gros problème est là, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui en France structuré une filière bois qui permette d'abaisser les prix. Donc on est obligé d'aller chercher des bois dans le nord de l'Europe qui sont de moindre qualité.
Et c'est pas, là, l'empreinte carbone en prend un coup aussi parce qu'il faut
Un peu, mais bon... aller chercher une tonne de bois dans le nord de l'Europe, si vous le faites acheminer par le train ou par des voies qui sont moins polluantes que parfois le bateau ou le camion. En réalité, on est loin de rattraper l'impact que produit la production du ciment, qui est quand même le principal point noir de toute notre industrie.
Quels sont les grands chantiers du moment pour vous? Quels sont les gros points, vos grands axes de travail, on va dire?
Alors, cette année, on a un gros développement sur des sujets un peu expérimentaux dans le domaine du réemploi du béton. Donc, j'ai développé une expérience et d'un financement de la BPI, qui est financeur d'un certain nombre de projets innovants et de start-up. On a développé un process pour faire du réemploi de béton. Donc, l'idée, c'est de comme à l'époque des châteaux forts. Oui. On vient découper en fin de vie un bâtiment plutôt que de le réduire en poussière et en granulat pour le mettre dans des voiries. On a monté un process pour essayer de fabriquer des sous-produits par la découpe du béton pour refabriquer des éléments qu'on peut intégrer dans l'architecture.
D'accord.
Donc ça a commencé il y a 5 ans maintenant, l'aventure. Et donc, on commence à avoir nos premiers chantiers de cette société qui s'appelle Bégo, qui est une petite fille ou un petit garçon plutôt de Cycle de Ville. Donc, on a en ce moment même un chantier qui se développe, qui est plutôt de l'ordre de l'expérimentation et un certain nombre d'autres expérimentations en Île-de-France autour de la production de revêtements de sol, enfin de pavés ou de dallage en ce moment sur la ville de Stein, et des sujets de recherche qui essayent de se développer autour de l'adaptation du bâti au risque de submersion marine, qui est un risque un petit peu moins connu dans nos contrées d'Île-de-France, parce qu'on est évidemment moins soumis à ce risque que tout le littoral français, mais la montée des eaux va générer un risque de submersion assez fort à l'horizon 2050. On a plus de 5000 bâtiments qui vont être concernés, et à l'horizon 2100, on a plus d'un million de bâtiments de logements, en tout cas, ou de bâtiments qui devraient être concernés de près ou de loin par ce risque. Donc on essaie
et surtout sur tout le littoral,
sur tous les 20 000 kilomètres de littoral français. En France, on a quand même un littoral très exposé.
Bien sûr.
Alors je parle France métropolitaine et DOM-TOM évidemment, parce qu'on a quand même une grande partie du littoral et des territoires qui sont déjà concernés par l'érosion côtière, et donc le risque l'érosion côtière cumulée à l'élévation du niveau de la mer, qui fait que des bâtiments vont se retrouver les pieds dans l'eau alors qu'ils n'avaient pas tellement prévu de les avoir.
Un petit mot peut-être pour finir sur les particuliers qui viennent vous voir pour leur logement, pour réhabiliter, rénover leur logement. Quels sont les profils ? Ce sont plutôt des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs. Comment vous voyez justement évoluer les mentalités, on va dire, par rapport à cette rénovation énergétique ?
Alors, vous avez raison de poser cette question-là, parce qu'en effet, on voit en fait changer vraiment l'attitude des particuliers vis-à-vis de ces sujets. Il y a encore 5 ans, 6 ans, on avait le sentiment que c'était un petit peu l'apanage de quelques-uns qui étaient vraiment très férus ou très intéressés ou très engagés. Aujourd'hui, tout le monde se pose la question, tout le monde voit sa facture énergétique
augmenter. C'est ça, c'est depuis la crise énergétique en fait.
C'est effectivement plus marqué depuis cette époque-là. Donc on a, pour répondre à votre question, en fait, vraiment deux types de publics. On a pas mal de copropriétés qui ont réussi à se mettre d'accord pour s'engager dans une démarche de rénovation de leur immeuble. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, dans Paris ou en proche banlieue, et qu'on accompagne donc dans la rénovation globale de leur immeuble. Et on fait aussi de l'accompagnement individuel, c'est-à-dire on essaye de les aider aussi dans la recherche des aides. Et on a des projets de rénovation individuels de logements dans lesquels on peut les accompagner aussi dans le choix des meilleures options d'isolation, de que faut-il faire, est-ce qu'il vaut mieux isoler le toit ou plutôt les murs, est-ce que c'est plutôt les fenêtres. Enfin voilà, on pilote les audits énergétiques et on essaye de les accompagner jusqu'au bout pour qu'ils aient leurs aides. Donc ça, c'est un gros volet de notre... On essaye d'avoir une approche un peu mixte entre de la maîtrise d'œuvre classique et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
Oui, c'est de l'accompagnement en fait.
Voilà, c'est un peu différent.
Beaucoup de pédagogie aussi, parce qu'au niveau des aides, c'est vrai que ça change beaucoup. Ça a pas mal changé ces derniers temps.
Oui, donc, alors
c'est parfois un peu
difficile de s'y retrouver, nous on a du mal. Mais globalement, il y a quand même une continuité. Donc on entend pas mal de choses qui sont un peu effrayantes aussi. Je pense que les gens ont peur, surtout avec les coupures budgétaires de l'année 2025, que les aides soient supprimées. Alors,
elles ont été un petit peu diminuées, mais elles sont encore là.
Voilà, elles restent, je ne sais plus exactement quel est le nom, mais c'est des milliards qui sont réservés, et le budget 2024 n'a pas été consommé l'an dernier. Donc
il y a peut-être une méconnaissance aussi du sujet, parce que quand on regarde dans les sondages, il y a un dernier sondage Ipsos qui a été réalisé là récemment pour Sud Radio. C'est vrai que plus d'un Français sur deux n'est pas du tout au courant des aides, n'est pas du tout au courant, ne sait même pas ce que c'est qu'un DPE. Donc un diagnostic de performance énergique, c'est assez quand même troublant de voir ça.
Oui, non, mais tout à fait, c'est assez déroutant, et d'autant plus quand on expérimente et on voit tout ce qui se fait au quotidien. Nous, on est obligé de se renseigner, donc on maîtrise assez bien quand même le sujet, et on voit ce que fait la ville de Paris, mais ce que font aussi d'autres régions assez volontaires. Hein, les aides ne sont pas, sont d'une part les aides de l'ANA, donc de l'État, et il y a tout un volet régional ou local qui s'ajoute aux aides de l'État. Et on arrive à des taux, en tout cas, bon, dans Paris, on arrive quasiment à 90% pour certains ménages, ce qui est énorme. Mais surtout, ce qui est assez effarant, c'est qu'on continue à entendre des discours qui disent « Ah mais non, mais moi, on m'a dit que je n'y avais pas droit. Ah ben non, mais ça, c'est, en fait, ils vont encore changer la règle du jeu, etc. » Alors, bon, il y a des petits changements, mais à la marge. Heureusement, j'ai l'impression quand même que le ministère du Logement et du Développement Durable a un petit peu tiré parti des erreurs des années 2010. Ouais. Avec l'isolation à 1 euro, le chauffage à 1 euro, et que ces changements brutaux de cap qui ont complètement perturbé toute une filière, que ce soit la filière photovoltaïque, enfin, tout ce qui a été fait pendant une dizaine d'années, ont quand même servi de leçon. Et aujourd'hui, on a des aides coordonnées par rapport à une approche globale. Et ça, c'était vraiment un point très important, en tout cas pour nous, architectes, de ne pas être soumis à des effets d'échelle et des effets de marché qui font que tout d'un coup tout le monde va se mettre à la chaudière gaz et tout d'un coup va vouloir
bien sûr.
Et qui est complètement antiproductif pour avoir une approche intelligente sur un projet.
Totalement d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Annelise Lemery. Alors, votre site internet, peut-être pour vous retrouver, si on veut faire appel à vous.
Alors, on a un site internet sur www.cycledeville.fr.
Tout simplement.
Voilà. Et ceux qui s'intéressent au réemploi du béton peuvent aller sur www.bego-reemploi.fr.
Bego, B-E...
B-E-G-O.
G-O, tout simplement.
Béton, Lego, ça faisait Bego.
Voilà, bon. Parfait. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview très intéressante. Et puis, nous, on se retrouve très vite dans un tout nouveau numéro du Zoom de l'Info sur Radio Immo.
Radio Immo, le Zoom de l'Info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.